Si la compagnie s'entête, il va y avoir une grève. Il faut s'organiser. Il faut créer une caisse de prévoyance qui, à l'occasion, servira de caisse de résistance. Plus nous aurons l'argent, plus nous serons forts pour résister.
L'embêtant, c'est les cotisations. 50 sous par an pour le fonds général. 2 francs pour la section, ça fait beaucoup. Et refusons de payer.
Ça peut pas faire de mal.
Il faut rebâtir un monde propre, avec plus de justice. Regrouper, on doit dicter nos lois.
Augmenter les salaires dans le cadre d'une économie capitaliste, c'est du rêve. Les ouvriers ont juste le droit de manger du pain sec et de faire des enfants. C'est une loi d'airain qui repose sur l'équilibre des ventres vides. Faut tout détruire. La terre lavée par le sang. Après, on verra.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Faut tout faire pour éviter le sang.
Ça peut pas faire de mal. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer glacée d'avoir balayé des lieux de marais et de terre nue. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. L'homme était parti de Marchienne vers 2 heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte. L'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Brusquement, à un coude du chemin, un spectacle l'arrêta. C'était une masse lourde, un tas écrasé de constructions d'où se dressait la silhouette d'une cheminée d'usine. De rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées, 5 ou 6 lanternes tristes étaient pendues dehors à des charpentes dont les bois noircis alignaient vaguement des profils de tréteaux gigantesques. Alors l'homme reconnut une fosse. Il fut pris de honte. À quoi bon ? Il n'y aurait pas de travail. Mais il se risqua à gravir le terri sur lequel brûlaient 3 feux de houille dans des corbeilles de fonte. « Bonjour, » dit-il en s'approchant. « Bonjour, » dit un vieux charretier. « Je me nomme Étienne Lantier, je suis machineur. Il n'y a pas de travail ici ? C'est une fosse, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, c'est le Voreux. » Cette fosse, tassée au fond d'un creux, avec ses constructions trapues de briques, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, lui semblait avoir un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger le monde. Tout en l'examinant, il songeait à lui, à son existence de vagabond, depuis 8 jours qu'il cherchait une place. Il se revoyait dans son atelier du chemin de fer, giflant son chef, chassé de l'île, chassé de partout. Plus rien, plus un sou, pas même une croûte. Qu'allait-il faire là ainsi par les chemins, sans but, ne sachant seulement où s'abriter contre la bise ? Oui, c'était bien une fosse. Les rares lanternes éclairaient le carreau. Une porte brusquement ouverte lui avait permis d'entrevoir les foyers de générateurs dans une clarté vive. Il s'expliquait alors jusqu'à l'échappement de la pompe, cette respiration grosse et longue, soufflant sans relâche, et qui était comme l'haleine engorgée du monstre. C'était la première page de Germinal, le 13e volume des Rougon-Macquart, publié en 1885. Après La Curée et l'Assommoir, voici le 3e et dernier volet de notre cycle consacré à Émile Zola. Cette fois, il est question de la dureté des conditions de travail des mineurs dans une petite ville du nord de la France. Et nous allons suivre les aventures du jeune Étienne Lantier, le fils que Gervaise Macquart a eu avec son amant Auguste. Étienne est un travailleur opiniâtre qui a l'esprit frondeur. Entré dans le Voreux en tant que herscheur, il va rapidement découvrir l'enfer de la mine, la faim, la crasse et le corps qui plie sous la fatigue. Alors il va lancer une révolte contre la baisse des salaires et prendra la tête de l'insurrection des mineurs. Avec ce roman, Zola pose une question qu'il considère comme la plus importante du XXe siècle, celle de la lutte des classes. Il veut montrer la misère des ouvriers et dénoncer l'opulence des actionnaires. En cela, Germinal est un grand livre sur le peuple. Et Zola sera d'ailleurs salué le jour de ses obsèques, en 1902, par toute une délégation de mineurs du Nord venus lui rendre hommage. Mais c'est aussi un roman de l'espoir. Le titre évoque une journée du calendrier révolutionnaire de 1795, durant laquelle le peuple de Paris a envahi la Convention pour réclamer du pain. Et il fait aussi référence à la métaphore de la germination, c'est-à-dire à l'arrivée du printemps. Nous sommes en mars 1866. Le lendemain de son arrivée à Montsou, Étienne se rend de nouveau au pied du Voreux pour demander du travail. La description que fait Zola du lieu est très réaliste. Comme à son habitude, il s'est beaucoup documenté sur le sujet et a même visité une fosse, celle d'Anzin, pour ne négliger aucun détail. En attendant le maître Porion, qui est en charge de tous les ouvriers, Étienne observe ce qui se passe autour de lui et découvre avec effroi l'énorme trou noir qui avale des hommes tout au long de la journée. Très vite, il va faire la connaissance de plusieurs ouvriers, le vieux Bonnemort, son fils Maheu et l'une des filles de ce dernier, la mystérieuse Catherine. Chapitre 2 de la première partie du roman. C'est profond, demanda Étienne à un mineur qui attendait près de lui, l'air somnolent. 584 mètres, répondit l'homme. Mais il y a quatre accrochages au-dessus, le premier à 320. Tous deux se turent, les yeux sur le câble qui remontait. Étienne reprit. Et quand ça casse ? Ah, quand ça casse ! Le mineur acheva d'un geste. Son tour était arrivé, la cage avait reparu de son mouvement aisé et sans fatigue. Il s'y accroupit avec des camarades, elle replongea, puis jaillit de nouveau au bout de 4 minutes à peine pour engloutir une autre charge d'hommes. Lorsqu'Étienne fut là, on régla tout en 4 paroles. 30 sous par jour, un travail fatigant, mais qu'il apprendrait vite. Le haveur lui conseilla de garder ses souliers et lui prêta une vieille barrette, un chapeau de cuir destiné à garantir le crâne. Les outils furent sortis de la caisse. « Allons, allons, dépêchons !» dit Maheu. Étienne se trouvait devant le puits. C'était son tour maintenant. Il avait très froid. Il gardait un silence nerveux qui faisait ricaner les autres. Aussi, Catherine fut-elle heureuse d'entendre son père expliquer les choses au jeune homme. « Regardez au-dessus de la cage. Il y a un parachute et des crampons de fer. Ça fonctionne, oh, pas toujours. Le puits est divisé en 3 compartiments, fermés par des planches. Tiens, nous y sommes. » La cage, garnie de bandes de tôle et d'un grillage à petites mailles, les attendait, d'aplomb sur les verrous. Maheu, Zacharie, Levaque, Catherine se glissèrent dans une berline au fond. Et comme il devait y tenir 5, Étienne y entra à son tour. Mais les bonnes places étaient prises. Il lui fallut se tasser près de la jeune fille dont un coude lui labourait le ventre. Puis une secousse l'ébranla et tout sombra. Les objets autour de lui s'envolèrent tandis qu'il éprouvait un vertige anxieux de chute qui lui tirait les entrailles. Lorsque la cage s'arrêta au fond, à 554 mètres, Étienne s'étonna d'apprendre que la descente avait duré juste 1 minute. Mais le bruit des verrous qui se fixaient, la sensation sous lui de cette solidité l'égaya brusquement et ce fut en plaisantant qu'il tutoya Catherine. « Qu'as-tu sous la peau à être chaud comme ça ? J'ai ton coude dans le ventre ?» Alors elle éclata aussi. Était-il bête de la prendre pour un garçon ? Il avait donc les yeux bouchés ? « C'est dans l'œil que tu l'as, mon coude, » répondit-elle au milieu d'une tempête de rire. La cage se vidait. 4 galeries s'ouvraient là, béantes. Les ouvriers se séparaient, se perdaient par groupes au fond de ces trous noirs. Un par un, ils allaient. Ils allaient toujours, sans une parole, avec les petites flammes des lampes. Dès les premières enjambées, Étienne se meurtrit de la tête et des coudes. Le toit en pente descendait si bas que sur des longueurs de 20 à 30 mètres, il devait marcher cassé en deux. L'eau arrivait aux chevilles, mais il fallait continuer. Étienne râlait comme si le poids des roches lui eût broyé les membres, les mains arrachées, les jambes meurtries, manquant d'air surtout, au point de sentir le sang lui crever la peau. Près de 700 ouvriers besognaient à cette heure dans cette fourmilière géante, trouant la terre de toutes parts, la criblant ainsi qu'un vieux bois piqué des vers. Étienne, en se tournant, se trouva de nouveau serré contre Catherine. Mais cette fois, il devina les rondeurs naissantes de la gorge et il comprit tout d'un coup cette tiédeur qui l'avait pénétrée. « Tu es donc une fille ? » murmura-t-il stupéfait. Et elle répondit de son air gai sans rougeur. « Eh oui, vrai. » Il a mis du temps. Étienne et Catherine vont avoir l'occasion de mieux se connaître puisque le nouveau venu prend pension chez les Maheu. C'est une habitation très modeste où ils vivent tous entassés avec les 7 enfants du couple. Dans cette promiscuité quotidienne, Étienne tombe amoureux de Catherine et tente un jour de l'embrasser. Mais ils sont interrompus par Chaval, un ouvrier de la mine qui veut posséder la jeune fille. Un soir, en sortant d'un dîner chez un certain Rasseneur, Étienne voit passer un couple dans la rue. C'est justement Catherine et Chaval. Mais il ne les reconnaît pas tout de suite. Chapitre 5 de la deuxième partie du roman. Sur la route, le grand Chaval accompagnait Catherine. Il marchait près d'elle, les bras ballants. Seulement, il la poussait de la hanche. Il la conduisait sans en avoir l'air. Elle s'aperçut tout d'un coup qu'il lui avait fait quitter le pavé et qu'ils s'engageaient ensemble dans l'étroit chemin de Réquillard. Mais elle n'eut pas le temps de se fâcher. Déjà, il la tenait à la taille. Il l'étourdissait d'une caresse de mots continus. Était-elle bête d'avoir peur ? Est-ce qu'il voulait du mal à un petit mignon comme elle, aussi douce que de la soie, si tendre qu'il l'aurait mangée ? Et il lui soufflait derrière l'oreille, dans le cou. Il lui faisait passer un frisson sur toute la peau du corps. Elle, étouffée, ne trouvait rien à répondre. C'était vrai qu'il semblait l'aimer. Pendant qu'il lui chatouillait la nuque avec ses moustaches, si doucement qu'elle en fermait les yeux, l'ombre d'un autre homme, du garçon entrevu le matin, passait dans le noir de ses paupières closes. Brusquement, Catherine regarda autour d'elle. Chaval l'avait conduite dans les décombres de Réquillard, et elle eut un recul frissonnant devant les ténèbres du hangar effondré. « Oh non, 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 murmura-t-elle, je t'en prie, laisse-moi. » La peur du mal l'affolait. Cette peur qui raidit les muscles dans un instinct de défense, même lorsque les filles veulent bien et qu'elles sentent l'approche conquérante de l'homme. Sa virginité, qui n'avait rien à apprendre pourtant, s'épouvantait comme à la menace d'un coup, d'une blessure dont elle redoutait la douleur encore inconnue. « Non, non, je ne veux pas. Je te dis que je suis trop jeune. Vrai, plus tard, quand je serai faite au moins. » Il grogna sourdement. « Bête, qu'est-ce que ça te fiche ?» Mais il ne parla pas davantage. Il l'avait empoignée solidement. Il la jetait sous le hangar et elle tomba à la renverse sur les vieux cordages. Elle cessa de se défendre, subissant le mal avant l'âge, avec cette soumission héréditaire qui, dès l'enfance, culbutait en plein vent les filles de sa race. Ses bégaiements effrayés s'éteignirent. On n'entendit plus que le souffle ardent de l'homme. Étienne, cependant, avait écouté sans bouger. Encore une qui faisait le saut. Et maintenant qu'il avait vu la comédie, il se leva, envahi d'un malaise, d'une sorte d'excitation jalouse où montait de la colère. Il fut tourmenté d'une envie, celle de voir leur figure. C'était imbécile. Il hâta le pas pour ne point y céder. Mais ses pieds se ralentissaient d'eux-mêmes. Il finit au premier réverbère par se cacher dans l'ombre. Une stupeur le cloua lorsqu'il reconnut au passage Catherine et le grand Chaval. Il hésitait d'abord. Était-ce bien elle ? Cette jeune fille en robe gros bleu avec ce bonnet ? Mais il ne doutait plus. Quel catin ! Et il éprouvait un furieux besoin de se venger d'elle, sans motif, en la méprisant. Et dire qu'Étienne s'était privé d'elle pour ne pas faire comme les autres. Cela le rendait fou. Il serrait les poings. Il aurait mangé cet homme dans un de ses besoins de tuer où il voyait rouge. Il s'efforçait de n'avoir plus qu'un regret brutal. Ça lui apprendrait à ménager les filles par bonne éducation. Alors Étienne s'arrêta, jeta un dernier regard aux ténèbres. La pluie tombait maintenant, lente, continue, abîmant ce néant au fond de son ruissellement monotone.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Toi, t'es vigneron dans le midi, et c'est dans le nord qu'il y a la grève. Si on te laissait dans ton pays, et qu'on te donne l'ordre de tirer, tu ne tirerais pas sur ton père. Moi, je suis pêcheur dans le Finistère. Explique-moi pourquoi je tirerais sur un mineur du Pas-de-Calais. Tous les travailleurs sont des frères. Faut pas nous laisser posséder. Où allons-nous ? Marche ou crève. Marche ou crève. Rien à faire, S'il faut tirer sur nos frères, on ne refuse pas de tirer. On ne peut pas tirer. On ne peut pas viser. Le fusil est bouché, la cachette rouillée, les cartouches mouillées. Rien à faire, rien à faire, rien à faire. Rien, rien à faire, rien à faire.
Étienne devient un bon herscheur et commence à bien connaître l'enfer de la mine. Un jour, ses camarades et lui écopent d'une amende.
Non mais qu'est-ce que c'est que ce voisinage là ? Maheu !
Qu'est-ce qu'il y a ?
Qu'est-ce que c'est que ce voisinage ?
Vous en faites pas, c'est du solide, monsieur l'ingénieur.
Mais comment ça, solide ? La roche est en train de se tasser, vous voyez pas ? Quand vous aurez tous la tête broyée, c'est vous qui en supporterez les conséquences, non ? C'est la compagnie qui fera les pensions à vos femmes.
Je vous connais, hein, pour deux berlines de plus le soir, vous donneriez vos peaux.
Si on nous payait assez, on boiterait mieux. Il vous reste une heure. Mettez-vous au boisage.
Il y a un moment que je vous le dis. Tout ce que vous allez gagner, c'est qu'on vous paiera le boisage à part et qu'on abaissera le prix de la berline.
Et je vous préviens, le chantier a 3 francs d'amende.
Les esprits s'échauffent et Étienne réfléchit à un moyen de révolte. Il se rapproche notamment de Souvarine, un réfugié russe anarchiste, et de Pluchart, un socialiste auprès duquel il songe à créer une section de l'Internationale. Peu à peu, le rêve d'une révolution sociale émerge dans sa tête. Et chaque soir, grâce à lui, des discussions animées tiennent les Maheu éveillés au coin du feu. Nous sommes dans la troisième partie du roman, chapitre 3. Maintenant, chaque soir, chez les Maheu, on s'attardait une demi-heure avant de monter se coucher. Toujours Étienne reprenait la même causerie. Est-ce qu'on était des bêtes pour être ainsi parqués les uns contre les autres au milieu des champs, si entassés qu'on ne pouvait changer de chemise sans montrer son derrière aux voisins ? Et la famille partait de là. Chacun disait son mot, pendant que le pétrole de la lampe viciait l'air de la salle, déjà empuanti d'oignons frits. Non, sûrement la vie n'était pas drôle. On travaillait en vrai brut à un travail qui était la punition des galériens autrefois. On y laissait la peau plus souvent qu'à son tour. Tout ça pour ne même pas avoir de la viande sur la table le soir. Et quand on arrivait le dimanche, on dormait de fatigue. Les seuls plaisirs, c'était de se saouler ou de faire un enfant à sa femme. Encore la bière vous engraissait le ventre et l'enfant, plus tard, se foutait de vous. Non. Non, ça n'avait rien de drôle. Alors la Maheude s'en mêlait. L'embêtant, voyez-vous, c'est lorsqu'on se dit que ça ne peut pas changer. Quand on est jeune, on s'imagine que le bonheur viendra, on espère des choses. Et puis la misère recommence toujours. Un silence se faisait, tous soufflaient un instant dans le malaise vague de cet horizon fermé. Seul le père Bonnemort, s'il était là, ouvrait des yeux surpris, car de son temps ne se tracassait pas de la sorte. On naissait dans le charbon, on tapait à la veine, sans en demander davantage. « Faut cracher sur rien, » murmurait-il. « Les chefs, c'est souvent de la canaille, mais il y a toujours des chefs, pas vrai ? Inutile de se casser la tête à réfléchir là-dessus. » Du coup, Étienne s'animait. « Comment ? La réflexion serait défendue à l'ouvrier ? Eh, justement, les choses changeraient bientôt, parce que l'ouvrier réfléchissait à cette heure. À présent, le mineur s'éveillait au fond, germait dans la terre ainsi qu'une vraie graine, et l'on verrait un matin ce qu'il pousserait au beau milieu des champs. » Oui, il pousserait des hommes, une armée d'hommes qui rétablirait la justice. Est-ce que tous les citoyens n'étaient pas égaux depuis la Révolution ? Puisqu'on votait ensemble, est-ce que l'ouvrier devait rester l'esclave du patron qui le payait ? Les grandes compagnies avec leurs machines écrasaient tout. C'était pour ça, nom de Dieu, et pour d'autres choses que tout pèterait un jour. Tous se regardaient. Catherine, le menton dans la main, ne quittait pas Étienne de ses grands yeux clairs lorsqu'il se récriait, disant sa foi, ouvrant l'avenir enchanté de son rêve social. D'une voix ardente, il parlait sans fin. C'était brusquement l'horizon fermé qui éclatait. Une trouée de lumière s'ouvrait dans la vie sombre de ces pauvres gens. L'éternel recommencement de la misère, le travail de brute, ce destin de bétail qui donne sa laine et qu'on égorge, tout le malheur disparaissait, comme balayé par un grand coup de soleil. Les semaines passent et la colère des mineurs ne désemplit pas. Déterminés à se faire entendre, ils décident de se mettre en grève afin de faire réagir leur hiérarchie. Averti de ce mouvement, M. Hennebeau, le directeur de la compagnie des mines de Montsou, accepte de recevoir la délégation de mineurs désireux d'expliquer leurs réclamations. Étienne et Maheu sont à la tête du groupe des mécontents qui se présentent à midi chez Hennebeau. C'est un homme plutôt sévère et déçu par la vie, plus préoccupé par les infidélités de sa femme que par le sort des ouvriers. C'est donc avec un peu d'indifférence qu'il les reçoit, le jour même où lui et son épouse, une femme méprisante, accueillent pour déjeuner les Grégoire, de riches bourgeois actionnaires de la compagnie. Quatrième partie, chapitre 2. Monsieur Hennebeau entra, boutonné militairement, portant à sa redingote le petit nœud de sa décoration. Il parla le premier. « Ah ! Vous voilà. Vous vous révoltez à ce qu'il paraît. Asseyez-vous, je ne demande pas mieux que de causer. » Les mineurs se tournèrent, cherchèrent des sièges du regard. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises, tandis que les autres, inquiétés par les soies brodées, préféraient se tenir debout. Il y eut un silence. Monsieur Hennebeau, qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée, les dénombrait vivement, tâchait de se rappeler leurs visages. Ses yeux s'étaient arrêtés sur Étienne, assis en face de lui. « Voyons, » demanda-t-il. « Qu'avez-vous à me dire ?» Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole, et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore. « Comment ? C'est vous ? Un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable ? Un ancien de Montsou dont la famille travaille au fond depuis le premier coup de pioche ? Ah, c'est mal !» « Ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents. » Maheu écoutait, les yeux baissés. Puis il commença la voix hésitante et sourde d'abord. « Monsieur le directeur, c'est justement parce que je suis un homme tranquille, auquel on n'a rien à reprocher, que les camarades m'ont choisi. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs, de mauvaises têtes cherchant à faire du désordre. Nous voulons seulement la justice. » Nous sommes là de crever de faim, et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. » Sa voix se raffermissait. Il levait les yeux. Il continua en regardant le directeur. « Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. On nous accuse de mal boiser. C'est vrai, nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire, mais si nous le donnions, notre journée se trouverait réduite encore. » Et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir, ce serait donc la fin de tout, le coup de torchon qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous boiserons mieux. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. Il faut que le travail soit payé pour être fait. » Des voix parmi les mineurs s'élevèrent. La pièce luxueuse avait disparu, avec ses ors et ses broderies, son entassement mystérieux d'anticaille, et ils ne sentaient même plus le tapis qu'ils écrasaient sous leurs chaussures lourdes. Monsieur Hennebeau était resté pensif. « Mon brave, dit-il, je suis un salarié comme vous. Je n'ai pas plus de volonté que le dernier de vos galibots. On me donne des ordres, et mon seul rôle est de veiller à leur bonne exécution. Vous m'apportez vos exigences, je les ferai connaître à la régie, puis je vous transmettrai la réponse. » Maheu prit la parole, la langue empâtée et maladroite. « Alors, monsieur, c'est tout ce que vous répondez. » « Vous réfléchirez, mes amis, reprit le directeur, vous comprendrez qu'une grève serait un désastre pour tout le monde. Avant une semaine, vous mourrez de faim. Comment ferez-vous ? Je compte sur votre sagesse, d'ailleurs, et je suis convaincu que vous redescendrez lundi au plus tard. Réfléchissez avant de faire des bêtises, répéta-t-il, inquiet de leur silence. Tous s'en allèrent. Et lorsque M. Hennebeau rentra dans la salle à manger, il retrouva ses convives, immobiles et muets. Puis, tandis qu'il buvait son café froid, on tâcha de parler d'autre chose. Enfin, Mme Hennebeau appela le domestique. « Hippolyte, avant que nous passions au salon, ouvrez les fenêtres et donnez de l'air. » Mais les mineurs n'ont pas l'intention de s'arrêter là. La grève continue et elle se généralise même, sauf au puits Jean Bar où les hommes ne veulent pas renoncer à leur salaire. Et c'est le début d'un autre enfer, celui de la faim.
Rien que deux pains, monsieur Maigrat. Je suis raisonnable, je ne vous demande pas de café. Je sais qu'on vous doit 60 francs depuis longtemps. Mais il faut qu'on mange du pain d'ici à samedi. Rien que deux pains de 3 livres.
Non.
Ça vous portera pas chance, monsieur Maigrat.
Je ne suis pas chiffonnier.
Immobilisés et vivant sur leurs maigres économies, le groupe de révoltés s'apprête à passer un hiver douloureux. Alors Étienne tente par tous les moyens de leur donner du courage. Il réussit à convaincre quelques 10 000 ouvriers d'adhérer à l'Internationale et il les exalte régulièrement de ses discours enthousiastes en leur parlant de liberté, d'égalité et de justice. Mais il y a des réticents, Chaval notamment, qui n'est pas solidaire du mouvement. Il convainc Catherine de continuer à travailler à Jean Bar et ils sont perçus comme des traîtres par tous les autres. À bout de force, les grévistes enragés débutent une marche sur toutes les fosses du domaine. Ils se dirigent lentement vers la maison de M. Hennebeau, dont l'épouse et les filles sont allées se promener dans les environs. Et c'est avec effroi que Mme Hennebeau, cachée avec ses enfants dans une étable, observe la foule dehors. Chapitre 5 de la cinquième partie du roman. Le soleil se couchait. Les derniers rayons, d'un pourpre sombre, ensanglantaient la plaine. Alors la route sembla charrier du sang. Les femmes, les hommes galopaient, saignant comme des bouchers en pleine tuerie. « Quel visage atroce !» balbutia Mme Hennebeau. L'idée qu'il suffisait d'un regard entre les planches de cette porte disjointe pour qu'on les massacrât la glaçait. C'était la vision rouge de la révolution qui les emporterait tous fatalement en cette fin de siècle. Oui, un soir, le peuple lâché, débridé, galoperait ainsi sur les chemins et il ruissellerait du sang des bourgeois, il promènerait des têtes, il sèmerait l'or des coffres éventrés. Les femmes hurleraient, les hommes auraient ces mâchoires de loup ouvertes pour mordre. Oui, ce seraient les mêmes guenilles, le même tabou, la même cohue effroyable de peau sale, d'haleine empestée, balayant le vieux monde sous leur poussée débordante de barbares. Un grand cri s'éleva et domina la Marseillaise. « Du pain !» Du pain ! Du pain ! Les filles de Madame Hennebeau se serrèrent contre leur mère défaillante. Était-ce donc ce soir même que l'antique société craquait ? Le flot roulait sur Montsou le long des lacets de route entre les maisons basses bariolées de couleurs vives. On fit sortir la calèche de la cour, mais le cocher n'osait prendre sur lui de ramener Madame et ses mademoiselles sans encombre si les grévistes tenaient le pavé. Et le pis était qu'il n'y avait pas d'autre chemin. « Il faut pourtant que nous rentrions. Le dîner nous attend, » dit Madame Hennebeau hors d'elle, exaspérée par la peur. « Ces sales ouvriers ont encore choisi un jour où j'ai du monde. Allez donc faire du bien à ça !» Ils partirent. La bande au loin ruisselait dans Montsou. Il circulait des histoires abominables. On parlait d'affiches manuscrites menaçant les bourgeois de leur crever le ventre. Puis le groupe fit halte devant l'hôtel du directeur. Et leurs cris retentissaient. « Du pain ! Du pain ! Du pain !» Monsieur Hennebeau était debout, à la fenêtre, lorsqu'Hippolyte entra fermer les volets, de peur que les vitres ne fussent cassées à coups de pierre. Monsieur Hennebeau, qui voulait voir, monta au second étage et il se tint derrière la persienne, dominant la foule. Toute sa rage de l'après-midi, cette furieuse bataille au fond du grand silence de sa solitude, aboutissait maintenant à une immense fatigue. Son être était comme cette chambre, refroidie, balayée des ordures du matin, rentrée dans la correction d'usage. À quoi bon un scandale? Sa femme avait simplement un amant de plus. Il se prenait en pitié au souvenir de sa folie jalouse. Une amertume affreuse lui empoisonnait la bouche, l'inutilité de tout. L'éternelle douleur de l'existence, la honte de lui-même qui adorait et désirait toujours cette femme. Et sous la fenêtre, des hurlements éclatèrent avec un redoublement de violence. « Imbécile !» dit Monsieur Hennebeau entre ses dents serrées. Il les entendait l'injurier à propos de ses gros appointements, le traiter de fainéant et de ventru, de sale cochon qui se foutait des indigestions de bonnes choses quand l'ouvrier crevait de faim. Les femmes avaient aperçu la cuisine et c'était une tempête d'imprécations contre le faisan qui rôtissait, contre les sauces dont l'odeur grasse ravageait leurs estomacs vides. Ah, ces salauds de bourgeois, on leur en collerait du champagne et des truffes pour se faire péter les tripes. Du pain, du pain, du pain. Imbécile, répéta Monsieur Hennebeau. Est-ce que je suis heureux, moi ? Une colère le soulevait contre ces gens qui ne comprenaient pas. Il leur en aurait fait cadeau volontiers de ces gros appointements pour avoir comme eux le cuir dur, l'accouplement facile et sans regret. Que ne pouvait-il les asseoir à sa table, les empâter de son faisan, tandis qu'ils s'en iraient forniquer derrière les haies, culbuter des filles, en se moquant de ceux qui les avaient culbutées avant lui. Il aurait tout donné, son éducation, son bien-être, son luxe, sa puissance de directeur, s'il avait pu être une journée le dernier des misérables qui lui obéissaient, libre de sa chair, à ses goujats pour gifler sa femme et prendre du plaisir sur les voisines. Et il souhaitait aussi crever la faim, d'avoir le ventre vide, l'estomac tordu de crampes, ébranlant le cerveau d'un vertige. Peut-être cela aurait-il tué l'éternelle douleur. Ah, vivre en brute, ne rien posséder à soi, battre les blés avec la herscheuse la plus laide, la plus sale, et être capable de s'en contenter. Du pain, du pain. Est-ce que ça suffit, imbécile? Son ménage ravagé, sa vie endolorie, lui remontait à la gorge en un hoquet de mort. Et dans cette exaspération de son tourment, des larmes gonflèrent les yeux de M. Hennebeau, crevèrent en gouttes brûlantes le long de ses joues. Le crépuscule noyait la route lorsque des pierres commencèrent à cribler la façade de l'hôtel. Sans colère maintenant contre ses affamés, enragé seulement par la plaie cuisante de son cœur, il continuait à bégayer au milieu de ses larmes. Les imbéciles, les imbéciles.
Camarades, depuis un mois, nous avons souffert inutilement. Serions-nous assez lâches pour retourner aux fosses, la tête basse ? Que l'éternelle misère recommence. Il vaut mieux mourir tout de suite, en essayant de détruire cette tyrannie du capital qui nous affame. On ne peut pas accepter ce tarif pour le boisage. Ce n'est pas à nous de supporter les désastres des crises. Nous ne sommes pas responsables. Si la concurrence abaisse les prix de revient, ce n'est pas juste. Et puisqu'il nous pousse à bout, c'est à nous de faire justice.
Oui, justice, justice. Et demain, nous nous présenterons aux fosses et nous ramènerons les traîtres qui travaillent encore. Il faut montrer à la compagnie que nous sommes tous d'accord.
Cette marche aux airs de révolution a des conséquences tragiques. Hennebeau fait appel à l'armée pour enrayer le mouvement. Le combat avec les grévistes est sanglant. Maheu est tué. Étienne, persuadé que le socialisme un jour vaincra, se bat avec Chaval qui veut briser la grève et s'éloigne de l'anarchiste Souvarine qui soutient que la seule issue au conflit est la destruction pure et simple de la fosse. Mais il tombe rapidement dans le désespoir et commence à douter de son action. Toujours amoureux de Catherine, il est impuissant face à l'emprise que Chaval a sur elle. Une nuit, alors que tout le monde dort, il est réveillé par un bruit. Septième partie, chapitre 2. Étienne, qui ne dormait pas, s'inquiéta d'un bruit léger dans l'épaisse nuit de la chambre. Il distinguait le petit souffle des enfants, les ronflements de Bonnemort et de Maheude, tandis que près de lui, Jeanlin sifflait une note prolongée de flûte. Sans doute il avait rêvé, et il se renfonçait lorsque le bruit recommença. C'était un craquement de paillasse, l'effort étouffé d'une personne qui se lève. Alors il s'imagina que Catherine se trouvait indisposée. « Dis, c'est toi ? Qu'est-ce que tu as ? » demanda-t-il à voix basse. Personne ne répondit. Puis il y eut un nouveau craquement. Alors il traversa la chambre, il envoya les mains dans les ténèbres pour tâter le lit d'en face. Sa surprise fut grande en y rencontrant la jeune fille assise, la laine suspendue, éveillée et aux aguets. « Eh bien, pourquoi ne réponds-tu pas ? Qu'est-ce que tu fais donc ? Je me lève, » dit-elle. « À cette heure, tu te lèves ? Oui, je retourne travailler à la fosse. » Très ému, Étienne dut s'asseoir au bord de la paillasse pendant que Catherine lui expliquait ses raisons. Elle souffrait trop de vivre ainsi, oisive, en sentant peser sur elle de continuels regards de reproche. Elle aimait mieux courir le risque d'être bousculée là-bas par Chaval. « Va-t'en, je vais m'habiller. Et ne dis rien, n'est-ce pas, si tu veux être gentil. » Mais il demeurait près d'elle, il l'avait prise par la taille, dans une caresse de chagrin et de pitié. En chemise, serrés l'un contre l'autre, ils sentaient la chaleur de leur peau nue au bord de cette couche tiède du sommeil de la nuit. Elle s'était mise à pleurer tout bas, en le prenant à son tour par le cou pour le garder contre elle, dans une étreinte désespérée. Et ils restaient sans autre désir, avec le passé de leurs amours malheureuses qu'ils n'avaient pu satisfaire. Était-ce donc à jamais fini? N'oseraient-ils s'aimer un jour, maintenant qu'ils étaient libres? Recouche-toi, je ne veux pas allumer, ça réveillerait maman. Il est l'heure, laisse-moi. Il n'écoutait point. Il la pressait éperdument, le cœur noyé d'une tristesse immense. Un besoin de paix, un invincible besoin d'être heureux l'envahissait. Et il se voyait marié dans une petite maison propre, sans autre ambition que de vivre et de mourir là, tous les deux. Alors, dans un élan de son cœur, il lui dit à l'oreille « Attends, je vais avec toi. » Et lui-même s'étonna d'avoir dit cette chose. Il avait juré de ne pas redescendre. D'où venait cette décision brusque sortie de ses lèvres sans qu'il eût songé, sans qu'il eût discuté un instant? Maintenant, c'était en lui un tel calme, une guérison si complète de ses doutes qu'il s'entêtait en homme sauvé par le hasard et qui avait trouvé enfin l'unique porte à son tourment. Alors ils s'habillèrent dans les ténèbres avec mille précautions. Tous dormaient, mais il fallait traverser le couloir étroit où couchait la mère. Quand ils partirent, le malheur voulut qu'ils butèrent contre une chaise. La Maheude s'éveilla et demanda « Hein? Qui est-ce ?» Catherine, tremblante, s'était arrêtée en serrant violemment la main d'Étienne. « C'est moi, ne vous inquiétez pas, » dit celui-ci. « J'étouffe, je sors respirer un peu. » La Maheude se rendormit. Étienne et Catherine s'en allèrent vers le Voreux. Étienne et Catherine ne sont pas les seuls à reprendre le travail. Une bonne partie des mineurs redescendent aussi dans les fosses, le cœur plein d'amertume, après ces longs mois de grève qui n'ont abouti à rien. Mais ils ne savent pas que Souvarine, qui ne croit plus en rien, a saboté le puits du Voreux. Et un matin, c'est l'accident. Les galeries sont rapidement inondées et la mine s'effondre. Certains ouvriers réussissent à s'échapper à temps, mais d'autres restent piégés au fond. C'est le cas d'Étienne, de Catherine et de Chaval, bloqués à plusieurs centaines de mètres de profondeur, sans aucun espoir d'être secourus. Nous voici au chapitre 5 de la 7e partie du roman. Une nouvelle journée s'achevait et Chaval s'était assis près de Catherine, partageant avec elle sa dernière moitié de tartine. Elle mâchait les bouchées péniblement et il les lui faisait payer chacun d'une caresse dans son entêtement de jaloux qui ne voulait pas mourir sans la ravoir devant l'autre. Épuisée, elle s'abandonnait. Mais lorsqu'il tâcha de la prendre, elle se plaignit. « Oh, laisse, tu me casses le dos. » Étienne, frémissant, avait posé son front contre les bois pour ne pas les voir. Il revint d'un bond affolé. « Laisse-la, nom de Dieu !»« Est-ce que ça te regarde ?» dit Chaval. « C'est ma femme, elle est à moi. » Et il la reprit, et il la serra par bravade, lui écrasant sur la bouche ses moustaches rouges. Mais Étienne, les lèvres blanches, criait « Si tu ne la lâches pas, je t'étrangle !» Vivement, l'autre se mit debout, car il avait compris au sifflement de la voix que le camarade allait en finir. La mort leur semblait trop lente, il fallait que tout de suite l'un des deux cédât la place. C'était l'ancienne bataille qui recommençait, dans la terre où ils dormiraient bientôt côte à côte. Et ils avaient si peu d'espace qu'ils ne pouvaient brandir leurs poings sans les écorcher. « Méfie-toi, gronda Chaval, cette fois je te mange. » Étienne à ce moment devint fou. Ses yeux se noyèrent d'une vapeur rouge, sa gorge s'était congestionnée d'un flot de sang. Le besoin de tuer le prenait, irrésistible, un besoin physique, l'excitation sanguine d'une muqueuse qui détermine un violent accès de toux. Cela monta, éclata en dehors de sa volonté, sous la poussée de la lésion héréditaire. Il avait empoigné dans le mur une feuille de schiste, puis avec une force décuplée, il l'abattit sur le crâne de Chaval. Celui-ci n'eut pas le temps de sauter en arrière. Il tomba, la face broyée, le crâne fendu. La cervelle avait éclaboussé le toit de la galerie. Un jet pourpre coulait de la plaie. Épanché, l'œil élargi, Étienne le regardait. C'était donc fait. Il l'avait tué. Confusément, toutes ses luttes lui revenaient à la mémoire. Cet inutile combat contre le poison qui dormait dans ses muscles, l'alcool lentement accumulé de sa race. Pourtant, il n'était ivre que de faim. L'ivresse lointaine des parents avait suffi. Catherine, toute droite, poussa un grand cri. « Mon Dieu, il est mort !»« Tu le regrettes ?» demanda Étienne farouche. Elle suffoquait. Elle balbutiait. Puis, chancelante, elle se jeta dans ses bras. « Ah, tue-moi aussi. Mourons tous les deux. » D'une étreinte, elle s'attachait à ses épaules et il l'étreignait également. Et ils espérèrent qu'ils allaient mourir. Les heures se succédaient, tout également noir, sans qu'ils puissent en mesurer la durée exacte, de plus en plus égarés dans le calcul du temps. Catherine, résignée, avait appuyé contre la veine sa tête endolorie lorsqu'un tressaillement la redressa. « Écoute, » dit-elle, et elle collait l'oreille au charbon. Il comprit. Une attente de quelques secondes les étouffa. Puis très lointain, très faible, ils entendirent trois coups largement espacés. Et ils ne savaient pas quoi frapper pour répondre. Étienne eut une idée. « Tu as les sabots ? Sors les pieds, tape avec les talons. » Alors elle tapa. Elle battit le rappel des mineurs. 20 fois ils recommencèrent. 20 fois les coups répondirent. Ils pleuraient, ils s'embrassaient. Enfin les camarades étaient là. Mais leur joie tomba. Jamais on ne les rejoindrait assez tôt. Ils seraient morts 20 fois. Un jour, 2 jours passèrent. Ils étaient au fond depuis 6 jours. L'eau arrêtée à leurs genoux ne montait ni ne descendait. L'image de Chaval hantait Catherine et elle parlait de lui confusément. Elle racontait leur existence de chien. Le seul jour où il s'était montré gentil, et puis les autres jours de sottises et de gifles, quand il la tuait de ses caresses après l'avoir roué de coups. Et d'un élan, elle s'était pendue au cou d'Étienne. Elle chercha sa bouche et y colla passionnément la sienne. Les ténèbres s'éclairèrent, elle revit le soleil, elle retrouva un rire calmé d'amoureuse. Lui, frémissant de la sentir ainsi contre sa chair, demi-nue sous la veste et la culotte en lambeaux, l'empoigna dans un réveil de sa virilité. Et ce fut enfin leur nuit de noces, au fond de cette tombe, sur ce lit de boue, le besoin de ne pas mourir avant d'avoir eu le bonheur, l'obstiné besoin de vivre, de faire de la vie une dernière fois. Ils s'aimèrent dans le désespoir de tout, dans la mort.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Il casse le monde à coups de marteau. Il casse le monde en petits morceaux. Mais ça m'est égal. Ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime une pierre bleue, un chemin de terre, un oiseau peureux. Il suffit que j'aime un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon des bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux, il en reste assez pour moi, il en reste assez. J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie. Dans l'œil, un peu de lumière et le vent dans les orties. Ils peuvent casser le monde avec leur marteau pesant. Il en reste assez pour moi, il en reste assez, mon cœur.
Et voici pour conclure la fin du roman. Catherine ne survit pas. Étienne, lui, a la chance d'être sauvé. Quelques semaines plus tard, il décide de quitter Montsou et de monter à Paris. La grève n'a servi à rien. Les réclamations des mineurs sont restées lettres mortes. Mais les anciens compagnons de lutte d'Étienne ne lui en veulent pas et le saluent juste avant son départ. 1 an s'est écoulé depuis son arrivée à Montsou. Mais l'ancien frondeur n'a rien perdu de son enthousiasme et croit toujours en des jours meilleurs. Étienne débouchait sur le pavé, À droite, il apercevait Montsou qui dévalait et se perdait. En face, il avait les décombres du Voreux, le trou maudit. Puis, c'étaient les fosses à l'horizon. S'il voulait ne pas manquer le train de 8 heures, il devait se hâter, car il avait encore 6 kilomètres à faire. Et sous ses pieds, les coups profonds, les coups obstinés des rivelaines continuaient. Les camarades étaient tous là. Il les entendait le suivre à chaque enjambée. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie. Les bourgeons crevaient en feuilles vertes. Les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillées d'un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes. Le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Martin Delafosse. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki, Isor Pisani-Ferry et Irène Menahem.